moi j'ai pas pris du mouchmail au Cachin Oriental. J'ai refusé totalement cette
histoire. Moi j'ai essayé de promouvoir au Cachanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, c'est-à-dire les prix suivants, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'écouter ces paroles aux auditeurs spéciales consacrées aux institutions de la province du Kasaï occidental. La province est située au centre de la République démocratique du Congo. Elle est limitée au nord par la province de l'Équateur, à l'est par la province du Kasaï oriental, la province de Bandundu à l'ouest et au sud se trouve la province du Katanga et la République d'Angola. D'après les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté desserrée, le Kasaï occidental a une superficie de 156 967 000 km² et une population qui s'élève à environ 5 296 347 habitants. La province est subdivisée en deux villes, deux districts et dix territoires. Le Kasaï occidental, pour cette législature, a connu deux gouvernements provinciaux. Le premier, formé et dirigé par l'ancien gouverneur Trésor Kapoukou, issu du Rassemblement congolais pour la démocratie RCD, était aux commandes de la province depuis le début de l'année 2007 jusqu'à sa démission au mois de février dernier. Un autre ancien cadre du RCD a été élu et dirige le Kasaï occidental. En ce moment, il s'agit d'Hubert Kabasubabu Katulongi. Notons que l'Assemblée provinciale qui est dirigée par M. Omer Mizimbu Chakalaou avait au mois de juin 2007 voté une motion de défiance contre le gouverneur Trésor Kapoukou Ngoï qui avait été ensuite réhabilité par la Cour suprême de justice. Comme pour d'autres provinces, nous faisons le point avec vous sur la gestion de cette province. La situation est particulière, comme la province a des nouvelles autorités. Autre le point sur la gestion, nous allons également donner vos priorités pour le nouveau gouvernement provincial. Nous aurons en ligne en direct de Kananga, M. Hubert Kabasubabu Katulongi, gouverneur de province du Kasaï occidental, comme invité. Marie-Chantal Lumba, Tiki Poutou, Sylvain Matundou sont à la réalisation de cette émission supervisée par Nicole Ngata et Piro Ilamiju vous la présente, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Émission spéciale Parole aux auditeurs consacrée à la province du Kasaï occidental.
Quel bilan faites-vous à ces jours du fonctionnement de vos institutions provinciales?
Auditeurs habitant la province du Kasaï occidental, prenez rendez-vous avec toute l'équipe TH ce mercredi 15 juin de 10h à 11h15. Inscrivez-vous à l'adresse ta@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action. Et sur place à Kananga, vous nous suivez, je crois bien, sur 93.0 MHz. Mais vous êtes aussi nombreux à suivre Radio Kapi à Kikapa grâce à la radio partenaire Kilimanjaro FM. Vous êtes aussi dans la périphérie de la ville de Kananga, une partie du territoire de Dimbelele, une partie du territoire de Demba et aussi Kazumba, de Dibaya, comme ceux qui sont à Chimbulu qui écoutent Radio Kapi. Vous pouvez également réagir en nous appelant dans cette émission au 081 890 6315 et nous allons ensemble avec vous faire le point sur la gestion de la province du Kasaï occidental et aussi vos priorités par rapport aux nouvelles autorités. Nous avons en ligne de Kananga Raoul qui est déjà sur les antennes. Bonjour Raoul.
Bonjour, bonjour.
Et Raoul, on vous écoute par rapport au bilan de la gestion de la province. Il y a deux équipes, la première équipe a dirigé, elle est partie, et une nouvelle équipe est en place. Et nous parlons du bilan et aussi des priorités pour les nouvelles autorités. On vous écoute.
Oui, merci. Je remercie d'abord les journalistes qui m'ont accordé la parole.
Oui, on vous écoute, Raoul. Vous êtes le
Oui. Nous vous remercions d'abord de m'avoir accordé cette parole. Je salue toute l'équipe de Radio Kapi de m'avoir donné cette occasion de parler et de m'exprimer sur le bilan du Kasaï occidental. Donc, pour moi, quant à nous et la population du Kasaï occidental, effectivement, que le bilan est largement négatif. C'est qu'au lieu que les autorités du province s'occupent des affaires courantes de la population, les autorités se sont ingérées dans des problèmes, problèmes de la population. Ils se sont lancés dans des querelles avec la population, les chefs coutumiers et tout ça. Et nous sommes restés dans la dispersion. et que pour nous, en priorité pour le moment, on pense que le nouveau gouvernement qui est en place puisse s'atteler beaucoup plus, remettre la SNCC au service, remettre la construction de l'hydrachiste Satende, et remettre les fonds Mwenangoulou que nous avons attendus pour créer l'ouverture de la province avec d'autres provinces, et comme ça donner la paix à la population catalane que nous sommes maintenant pour le moment. Donc, je suis là, s'il y a autre chose à dire, je vais intervenir.
Merci, merci beaucoup. Vous avez déjà dit presque l'essentiel, Raoul. Vous avez d'abord dit que les autorités du gouvernement passé, le gouvernement provincial bien sûr, sont plus données à des querelles qui n'ont pas pu travailler pour les biens de la province, mais vos priorités pour le moment, c'est la réhabilitation en fait du travail pour la SNCC. Il faut réhabiliter SNCC. Vous parlez de la construction de la chute KTMB et aussi la construction du pont Mouignan-Boulou. Merci. Merci Raoul de ces constats et aussi de ces propositions. Nous restons sur place dans la ville avec Trudon Toumba. Vous êtes en ligne. Bonjour Trudon.
Bonjour monsieur le journaliste.
Vous êtes de la société civile. Nous faisons le point sur la gestion de la province, mais aussi nous définissons les priorités pour les nouvelles autorités. On vous écoute.
Bien, merci beaucoup. Je voudrais que cette question qui m'est posée, si l'occasion est donnée par exemple à l'Assemblée provinciale, à la CNJUR en tant qu'institution provinciale, de s'auto-évaluer, il y a lieu de dire que le bilan aura été largement négatif. Mon prédécesseur l'a dit, mais le moins que l'on puisse dire que les institutions du Cachorro occidental, dans leur fonctionnement, auront été le prototype même de la mal-gouvernance. Ça n'a jamais été un modèle, et j'en ai pour preuve, par exemple. Poser à ce jour la question aux élus provinciaux. Combien d'élus ont-ils voté? Combien de plénières, même en pleine session, ont été convoquées? Combien de questions orales ont été adressées à l'exécutif? Combien de motions ont été adressées à l'exécutif? Et combien de missions de contrôle ont été réalisées? Quand bien même ces missions avaient été évaluées, poser la question de savoir qui est-ce qui a été désigné. Donc la grande faute incombe aux animateurs de ces institutions-là. Le malheur aura voulu qu'à ce jour, nous puissions plutôt évaluer donc les institutions par leurs animateurs. Nos institutions valent ce que valent nos animateurs.
Permettez-moi de vous interrompre un tout petit peu pour dire à nos auditeurs que notre invité est déjà en ligne. Mais vous êtes de la société civile. L'Assemblée provinciale représente la population du Cachorro occidental. Et vous, de la société civile, quand vous vous êtes rendu compte que l'Assemblée provinciale du Cachorro occidental ne joue pas son rôle, comme vous l'avez évoqué, quelle a été votre attitude? Parce que enfin, c'est quand même la population qui a mandaté ces députés provinciaux.
Eh bien, notre attitude, nous sommes allés vers eux, mais malheureusement, on s'est rendu compte que les priorités de nos institutions sont ailleurs. Leur priorité, c'est d'acquérir des biens meubles, leur priorité pour les uns, c'est compléter leur garde-robe, pour les uns, c'est compléter la chaîne de leur concubine. Sincèrement, c'était la politique pour la politique, mais non pas la politique pour l'intérêt de la population.
Et maintenant, qu'il y a d'autres de nouvelles autorités pour la province du Cachorro occidental, quelles sont alors pour vous de la société civile les priorités que vous pouvez présenter à ces autorités par rapport à ce qui s'est déroulé dans le passé?
Très bien. Je suis content du fait que les nouvelles autorités, je parle du gouvernement provincial, est en train de fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir rattraper le retard, parce qu'il faut reconnaître que l'ancien gouvernement, c'était beaucoup de gâchis, c'était le processus même, c'était l'incompétence, pour ne pas parler de la politique pour le plaisir de le faire, il rattrape le retard. Ce que moi je veux repenser, c'est que les priorités du Cassaïen, elles sont connues. C'est l'eau, c'est l'électricité, ces efforts-là sont fournis à ce jour. Voilà pourquoi nous leur faisons chapeau bas, mais nous disons qu'il va falloir que ces autorités-là ferment les oreilles, parce qu'il y a beaucoup de querelles dans le sein de l'Assemblée provinciale, si bien qu'à ce jour, la population connaît là où ils sont intérêts.
Voilà, merci.
Les deux groupes des membres de l'Assemblée provinciale,
nous savons
qui est qui œuvre pour l'intérêt de la population, nous savons qui est qui œuvre pour son petit intérêt, n'est-ce pas?
Merci beaucoup, Trudon. Vous êtes à Kananga, vous avez beaucoup chargé l'Assemblée provinciale, mais vous avez aussi défini les priorités. Nous avons en ligne un autre invité, c'est M. Hubert Kabasubabo, gouverneur du Cachorro occidental. Monsieur le gouverneur, bonjour.
Bonjour.
Nous vous gardons en ligne, il est temps d'écouter les auditeurs qui sont exclusivement pour cette émission, les habitants de la province du Cap Occidental avec qui nous allons échanger autour de cette émission, que ce soit les bilans, mais aussi les priorités hein, pour le gouvernement provincial que vous dirigez. Nous allons revenir à vous, le temps d'écouter Freddy qui est sur place à Kananga. Freddy, bonjour.
Bonjour.
Freddy, vous avez suivi la démarche dans l'émission. Nous faisons le point sur la gestion dans le passé, mais aussi nous définissons les priorités pour la province du Cap Occidental. On vous écoute. Là, on a un problème de ligne avec Freddy. Il est temps peut-être que la réalisation puisse le revoir. On pourra lui remettre la parole le temps que la réalisation puisse revoir. Mais nous avons un message encore qui vient de Kananga, écrit par Eric. Il dit ceci: la province est divisée par des députés, surtout ceux de l'opposition, qui voient tout en mal. Il est vrai que l'ancien gouverneur a totalement failli à son programme, surtout à cause de ces députés qui se disent opposants la journée, mais la nuit, qui courent derrière le politicien. Coup de chapeau à son excellence, Monsieur Kabasu Babu, nouveau gouverneur, qui, dans un mois seulement, fait remettre le Cap Occidental. Qu'on lui accorde encore un second mandat, car il a des trop bonnes intentions pour la province. L'eau coule trois fois par semaine et le courant chaque soir, chose qu'on n'a pas vue depuis plus de trois ans. Coup de chapeau aussi à l'honorable président de l'Assemblée provinciale qui a su gérer l'institution malgré vents et marées. Nous allons revenir, nous allons prendre Mathieu directement et donner la parole à l'invité. Mathieu, vous êtes sur place à Kananga, bonjour. Mathieu, vous êtes en ligne, bonjour. Oui, on a des problèmes de ligne avec Mathieu, le temps qu'on donne la parole maintenant à notre invité.
Émission spéciale Parole aux auditeurs consacrée à la province du Kasaï Occidental.
Quel bilan faites-vous à ces jours du fonctionnement de vos institutions provinciales?
Auditeurs habitant la province du Kasaï Occidental, premier rendez-vous avec toute l'équipe et Arc, mercredi 15 juin de 10h à 11h15. Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Monsieur Hubert Kabasu-Babo, vous avez suivi le premier groupe d'auditeurs. Dans cette émission, c'est un échange entre la population, et nous-mêmes et puis vous qui êtes gouverneur des provinces du Cap Occidental. On a fait le point sur la situation. Vous avez suivi les auditeurs qui ont déclaré que vous avez récupéré la province au moment où le bilan est négatif selon les auditeurs. Et à partir du moment que vous avez pris la tête de la province, d'une manière un peu brève, quelles ont été pour vous les priorités à partir de la situation où vous avez trouvé la province?
Bah, disons que les priorités sont connues dans la province, même au niveau central. Donc c'est d'abord, comme on dit un petit peu bas, Kounakouim. Donc il faut qu'il y ait la sécurité alimentaire, que les prix des denrées alimentaires, essentielles, puissent être abordables pour tous les Congolais du Cap Occidental, mais également avoir l'eau, comme on dit, l'eau c'est la vie, et avoir l'eau et l'électricité. Et en dehors de cela, il y a la problématique des infrastructures, il y a la problématique de routes de descente agricole, de routes d'intérêt national, mais de routes d'intérêt provincial. Et il y a également la problématique de la santé, donc des hôpitaux, les équiper, les réhabiliter, les écoles, parce que le spectacle qu'on a vu est vraiment désolant. Il y a des enfants qui étudient dans des configurations architecturales qui ressemblent vaguement à des classes. Et donc, voilà, la panoplie de priorités. Mm-hmm. Et comme la population le dit, nous sommes affiliés à l'essentiel d'abord, ce qui veut dire l'eau et l'électricité. Malheureusement, quand on dit l'eau et l'électricité, ça se sent pas au niveau de Kananga, un peu au niveau de Chikapa, et même l'électricité. Et donc, les efforts continuent. Nous allons amorcer la procédure pour l'acquisition des panneaux solaires. Donc, nous sommes encore dans la comparaison des prix, etc. Et nous pensons que dans les 100 jours, on pourra faire un bilan plus exhaustif, plus raisonnable par rapport à ce que nous avons promis et par rapport à ce qui s'est fait sur le terrain.
Et quand vous parlez du projet de déploiement solaire pour l'électrification, concrètement, est-ce que ce panneau c'est pour la lumière publique ou bien ça pourra permettre à toute la population d'avoir l'énergie électrique qui vient de panneaux solaires quand on sait bien sûr que le coût n'est pas à la bourse de tout le monde?
Dans un premier temps, c'est pour l'éclairage public dans les territoires et également dans les, disons, dans le bureau de l'État. Et progressivement, on pourra aller dans les écoles. Comme vous savez, il y a le grand projet vital, crucial, stratégique pour la province et pour la République également, parce que c'est un projet qui va booster en réalité l'industrialisation du Cassin occidental, qui, je dois souligner, et c'est fondamental, on doit le réaliser même par les autorités centrales, le Congo a besoin d'une reconstruction qui est cinétique et accélérée. Et pour cela, il faut que le Congo ait, en plus des initiatives de reconstruction, dans les extrémités est et ouest, le Congo a besoin de ce qu'on appelle par les experts les developmental hubs, donc une nouvelle zone de développement qui doit lier les classes occidentales. Et donc, dans ce sens-là, le barrage, le KTND, est un atout majeur, et donc le chef de l'État s'y attelle, mais je pense que dans le court terme, il faut donc les mini-barrages. Parce qu'il doit, on doit souligner ici, hein, on ne doit pas se leurrer, on ne doit pas faire la démagogie, on doit être réaliste. La consommation d'électricité va avec les niveaux de développement économique. Donc, même si quand on va l'avoir, il nous faudra peut-être 5 ans pour que nous puissions avoir un niveau de développement industriel qui permette la consommation et la viabilité, la soutenabilité financière de tel projet. Et donc, si vous mettez les panneaux solaires dans les territoires, dans les milieux où il y a encore un sous-développement économique palpable, tangible, il va y avoir une sorte de contradiction entre la source d'énergie pour la soutenir dans le temps, la maintenir, et la capacité des personnes à pouvoir payer. Mais on a déjà un problème avec la SNEL et la régie des eaux, la culture du non-paiement. Évidemment, c'est connecté, hein, les gens disent, nous avons fait 3 ans, 2 ans, on n'avait pas d'électricité, et donc c'est difficile pour eux d'avoir cet automatisme qui consiste à consommer et à payer. Et donc il y a toute une culture, toute une autre bataille pour donner à la population le mental, le sens du devoir de payer pour soutenir, maintenir l'outil qui génère l'électricité.
Voilà, on vous garde en ligne. Nous allons continuer cet échange avec les habitants de la province du Kassai occidental. Mais plus sur les antennes, nous avons ceux qui habitent la ville de Kananga. Vous nous écoutez aussi à Tshikapa. Appelez-nous au 081-890-6315 dans la périphérie, comme à Mopoi, à Tchimboulou. Vous écoutez Radio Kapi. Appelez-nous par ces numéros. Donnez votre point de vue sur la gestion de la province, mais surtout ce que vous pensez que les autorités actuelles puissent faire pour le Kassai occidental. Nous restons dans la ville de Kananga avec Freddy qui est en ligne. Bonjour Freddy.
Bonjour.
On vous écoute Freddy.
Oui, je crois qu'on a souligné quelque part. Ça, il a un négatif.
Apparemment, on a le problème, c'est deux fois qu'on ne parvient pas bien suivre Freddy. Désolé pour vous, on pourra voir dans la mesure du possible, mais on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur le standard. Nous restons à Kananga avec Mathieu. Vous êtes en ligne. Bonjour Mathieu.
Oui, bonjour Monsieur Pierrot.
On vous écoute en bref, messieurs.
Oui. On peut passer à Kananga. Moi, je vous dis ceci. D'abord, je salue le secteur qui m'a bouché sur la scène de son excellence, le gouverneur des provinces. Il y a au fait que c'est pour personne. Les Kassai occidentaux sont parmi les provinces du pays les plus marginalisées par les soi-disant politiciens, où la population vit dans la manipulation et au désordre. On sait de toutes pièces pour ne pas parvenir à ce développement, et ceci dans tous les niveaux. C'est le nom de Kouakébouéna, c'est-à-dire la tribalisme qui bat son plein. Revenons pour l'état des institutions politiques. D'abord, avant Kaba Souba, gouverneur actuel, le gouverneur de l'Assemblée provinciale n'ont rien fait pour la recherche des bien-être de la population, des animateurs de ces deux institutions, travailler dans les systèmes de camaraderie et pour les intérêts égoïstes et privés. D'ailleurs, les 14 personnes n'ont jamais passé les doigts aux soi-disant 5 chantiers. On attend cette constante à travers les médias, dans les missiles de l'Assemblée professionnelle, une discipline décolorée par des tendances qui s'exclutent la légitimité, et dirigée par l'ancien Mijimbu et l'autre par Miaka, qui se regarde au sein des soignants. Mais, à ce jour, jusqu'à ce jour, monsieur le journaliste, à l'entrée des nouveaux gouverneurs, Hubert Kabasubabu en fonction, nous avons remarqué qu'il y a un fait de changement. On voit l'eau de la régie au robinet et le courant de la SNL, malgré qu'ils ont tout simplement 3 heures. Nous attendons voir comment ils vont redresser l'économie de la province, résoudre la condition de vie de la population. Puisque nous sommes fatigués au discours politicien, une chose que je reproche à l'actuel gouverneur qui est capable d'entrer dans son fonction, c'est une question que je lui pose à votre invité. Pourquoi le gouverneur, étant autorité principale de cette province et le président du président de la République, n'a jamais songé à faciliter la réconciliation entre les deux candidats des assemblées qui discutent de la justice? N'a-t-il pas la capacité de le faire ou c'est tout simplement une politique de mémoire qui joue sa carte?
Voilà, merci. Merci Mathieu Dekananga, on a compris l'émotion dans votre intervention, le bilan négatif, la division au sein de l'Assemblée provinciale, mais là, vous saluez les efforts du gouvernement, mais vous lui posez une question, a-t-il déjà tenté de réconcilier les deux tendances de l'Assemblée provinciale? Au moins, nous avons un auditeur en dehors de la ville de Kananga, c'est à Chikapa, Romain, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Nous faisons les points dans cette émission spéciale consacrée à la province du Kassai occidental par rapport à la gestion de la province. On sait que la province a connu des changements, on a de nouvelles autorités et autres. Le point sur le bilan, mais quelles sont aussi les priorités que vous pouvez formuler pour les autorités actuelles? On vous écoute.
Oui, merci. En commençant par le bilan, vous savez, la province du Kassai occidental, c'est la dernière des provinces où rien n'a tourné depuis que les institutions actuelles sont en place. Vous savez que notre assemblée a été l'assemblée qui a été marquée par des turbulences, des troubles, des querelles entre les tendances opposées au sein de l'assemblée. Et le gouverneur sortant n'a pas réussi à mettre la main ou à ramener l'ordre là où il y avait un peu du désordre. C'est du moins ça la grande caractéristique des institutions au niveau de la province du Kassai occidental. Mmh. Bon, par rapport à l'emprunt et aux grandes priorités, vous savez que nous sommes la dernière de province où rien n'a tourné. Et tous les projets, si nous faisons la comparaison avec d'autres provinces, avec le Bandoudou, on a vu Dr. Richard faire des choses, rétablir des institutions, construire des écoles, des hôpitaux, doter des véhicules, le truc à des entités. Quand on n'en parlons pas, il y a autant de provinces pour être un peu plus synthétiques qui ont fait des choses, mais au Kassai, on n'a rien vu. De l'agriculture, il n'y a rien. Le route, il n'y a rien. Les institutions scolaires, sanitaires, tout ça, rien n'a été fait. C'est-à-dire, le nouveau gouvernement qui est entré part à zéro. Et avoir les priorités. On va voir la situation, le social de la population. Rien ne va. En plus de ça, nous n'avons pas de route à l'intérieur de la province. Celui qui est sorti sans avoir mis pied dans certains territoires, comme à Dégressé par exemple, il n'a jamais été là, mais c'est un territoire, dans la province du Kassai occidental. Donc, la priorité doit être donnée aux routes. De deux, voir le social de la population. C'est vrai que le nouveau gouverneur en entrant, il a dit qu'il se focaliserait davantage sur l'agriculture. Oui, c'est vrai. On se demande comment il parviendra-t-il par rapport au temps qui lui reste. Il y a autant de problèmes qui se posent pour lesquels il doit placer les grandes lignes. Mais, de mon avis, il doit avoir d'abord le problème des infrastructures routières, de deux, voir le problème du social de la population. Merci. Voilà, d'une façon résumée, mes idées par rapport à ce que le nouveau gouvernement doit faire.
Merci Romain, vous êtes à Chikapa au Kassai occidental où on écoute Radio Kapi par l'entremise de la radio Kilimandero, la radio partenaire. Nous revenons dans la ville avec Maître Dini, vous êtes en ligne, bonjour Maître.
Bonjour Monsieur Perrault.
Si nous pouvons faire un pas en arrière, parce que beaucoup d'auditeurs depuis le début, ils ont dit que le bilan a été négatif, mais ils ont aussi défini les priorités. À quoi vous, particulièrement, attribuez-vous le fait que les choses n'ont pas marché selon la volonté de la population pour le mandat de l'ancien gouvernement provincial?
Merci Monsieur Perrault pour l'occasion que vous me faites gentiment pour m'adresser aux Congolais. La responsabilité incombe aux deux dirigeants des institutions provinciales, à savoir l'ancien gouverneur Capote Trésor et son complice, M. Lujimbu, qui est le président de l'Assemblée provinciale, étant donné que ce dernier il a failli totalement à sa mission, qui est celle de contrôler l'exécutif et légiférer aussi. Alors, ils ont fait bloc pour mettre cette province en moule. C'est ce que nous déplorons aujourd'hui. Donc, le bilan, comme mes prédécesseurs plutôt l'ont dit, est largement négatif sur tous les plans. Voilà ce que moi je peux dire en premier lieu.
Et en ce qui concerne les priorités, parce que selon Romain de Tshikapa, il a dit pour les nouvelles autorités, il n'y a pas beaucoup de temps. Il a peur peut-être qu'on ne puisse pas réaliser tous les projets pour le peu de temps qui reste. Mais pour vous, si le gouvernement provincial actuel pouvait commencer un peu plus rapidement, dans un bref délai, il pouvait commencer par quoi?
Eh bien, il doit tout d'abord donner solution aux problèmes habituels que tout le monde connaît. Ils sont en train plutôt de nous guetter au cachet occidental que le manque du courant électrique et le manque d'eau. Et d'ailleurs, le courant, comme vous le savez bien, c'est un facteur du développement. Parce qu'avec le courant, il y a moyen de transformer tous les produits que nous produisons sur place. Et en plus de cela, il doit faire les routes des dessertes agricoles qui manquent. Parce que quand on parle des routes, on voit seulement la ville des Canards, mais il faut faire même 50 km. À l'intérieur de cette ville, vous allez voir que les routes n'existent même pas. Donc, quelqu'un qui a des mots, par exemple, il produit des manioques, il produit des maïs, mais il ne sait même pas comment les acheminer facilement dans la ville de Canaan. Et faute de ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se met maintenant à la fabrication de la boisson alcoolique, communément appelée chichampa, qui, du reste, est en train de nuire aux intérêts de la population ouest-kassaïenne, parce que quand les gens vous prennent, et tous les temps, le chichampa, ils se livrent maintenant, ils ne savent même pas faire le nécessaire, ce serait que passer toute la journée en train de jouer à la dame et puis à la distraction.
Merci beaucoup, Maître Dini. Vous pensez que la priorité, c'est l'eau et l'électricité, mais vous avez aussi insisté sur les routes et les dessertes agricoles qui peuvent permettre d'évacuer les denrées alimentaires des territoires vers la ville de Kananga. Nous allons écouter Pierrette, qui est aussi sur place à Kananga. Bonjour, Pierrette.
Bonjour, Pierrette.
Bon, merci d'être sur les antennes. On vous écoute.
Oui, comme vous l'avez dit au début de l'émission, le bilan devait être fait sur deux axes. On doit évaluer d'abord la première équipe, puis la deuxième, celle qui est en place. Concernant la première équipe, si on veut faire un bilan, moi je dirais que le bilan a été largement négatif. On n'a rien vu comme réalisation, rien vu comme concrétisation. On a entendu des discours, on les a entendus, on en a bavé. Mais les réalisations sur le terrain, nous, on n'a rien vu. La population n'a pas besoin de discours, la population n'avait pas besoin de voyages intempestifs, de politique, la population avait plutôt besoin de réalisation. La deuxième équipe est en place, il n'y a pas longtemps, elle n'a pas encore travaillé suffisamment, je ne pense pas que ce temps est suffisant pour pouvoir l'évaluer. Et à moi, on a vu quelques petits changements. L'équipe que le nouveau gouverneur est en place avec son équipe, quand même, beaucoup à Kananga, ce n'est pas suffisant, mais c'est quand même quelque chose. On donne du courant, mais je reste que pendant 3 à 4 heures, peut-être le soir, mais c'est quand même quelque chose, c'est pas suffisant, mais c'est quand même quelque chose. Mais concernant la première équipe, vraiment, en toute franchise, ça a été le gâchis que ça. Je ne pense même pas qu'il y ait un mot dans le dictionnaire pour définir ce que nous avons vécu.
Voilà. Merci, Pierrette. Vous rejoignez aussi Jennifer qui nous écrit des Kananga. Il dit ceci, vu que la province du Kassai occidental vient d'avoir un nouveau gouvernement, à mon avis, nous ferions mieux de poser cette question dans 6 mois, 1 an, 10 mois. Le début est bon et mérite des encouragements. Avant de prendre encore notre invité, nous avons Théodore qui nous appelle sur place des Kananga. Bonjour.
Bonjour M. Pierrot et bonjour les amis de la radio Capi, particulièrement de la parole aux auditeurs.
Nous faisons les points sur la gestion de la province, mais aussi nous formulons des priorités pour la nouvelle équipe dirigeante du Kassai occidental. On vous écoute, Théodore.
Oui, je vais intervenir dans ces deux points-là. Le premier, c'est concernant d'abord les bilans. Je crois que je m'en vais peut-être pour vous expliquer ce que c'est la configuration de l'action provinciale. Vous vous rendez compte que l'Assemblée provinciale du Kassai occidental avait 54 députés provinciaux. Et parmi les 54, vous avez d'abord 14 cadres universitaires, 18 diplômés d'État qui ont continué à étudier et 22 députés provinciaux sans diplôme d'État, des diamantaires et autres. Et le premier gouvernement provincial du Cap Occidental, qui avait 10 personnes, n'a fonctionné avec 9 ministres. Et parmi les 9 ministres, vous avez que 3 qui étaient pratiquement gradués et qui étaient étudiants, tout le temps dans les auditoires. Le deuxième gouvernement est composé de 10 ministres. Et parmi les 10 ministres, nous considérons que pratiquement les 6 proviennent de Kinshasa. Et quand vous prenez même le cabinet de l'actuel gouverneur, vous sentez que même les conseillers, bien entendu, la plupart, c'est plus les amis de diaspora qui viennent de Kinshasa. Donc, je considère que, au niveau d'abord du bilan, l'échec est dû, entre autres, à la non-maîtrise des réalités locales du Cap Occidental, que tout le monde en a parlé, à l'incompétence et même la médiocrité de ceux qui gèrent ces institutions, plus particulièrement au niveau de la députation provinciale. Vous avez vraiment des messieurs tout le monde, comme on le dit, et qu'on ne maîtrise pas les dossiers de la province, et on ne sait pas à quoi se vouer. Et il y a eu l'enrichissement rapide sans cause, les gens qui arrivaient et commencent à payer des parcelles, ainsi de suite. Mais il y a aussi le fait qu'on a insisté, c'est la complicité entre les institutions provinciales, entre les dirigeants de l'Assemblée provinciale et du gouvernement provincial, qui ont fait un mariage vraiment, malheureusement, pour eux, le mariage vient de se casser au mois de février. Donc il y a au moins cette configuration politique des personnes qui sont appelées à gérer les institutions au niveau même de l'Assemblée provinciale ou du gouvernement provincial. Donc vous avez des personnes qui n'ont pas eu la chance de bien étudier et qui ne connaissent pas les réalités de la province et qui viennent d'abord par moments mais vides et au fil des temps, ils s'enregistrent ici. Concernant maintenant le deuxième point, voilà, la chance que nous accordons à ce gouvernement, je crois que chaque gouverneur, moi je suis de la ville, je suis de Kananga, chaque gouverneur qui vient de tout ça, il faut toujours les actes ou les actions en fonction de l'eau, de l'énergie, de l'agriculture. C'est la routine. Mais je crois qu'on doit faire plus que ça. C'est plus que cela, c'est que il faut d'abord gagner, car il faut dans l'actuel gouvernement, gagner d'abord la confiance de cette population qui ne sait pas, qui ne se retrouve pas dans la matérialisation des 5 chantiers. S'il faut gagner cette confiance de la population, il y a lieu maintenant de poser ces actions, nous donner le courant 3 heures, nous donner de l'eau 3 fois la semaine, et le reste des jours, ce n'est même pas indébile parce que nous avons toujours eu ça. Je crois qu'il faut faire plus de gagner la confiance, amener les gens au travail avec un discours promoteur et une gouvernance participative, comme on semble dire, mais aussi savoir quels sont les leaders de la ville et qu'on contacte le cadre universitaire. On a eu à consulter les gens, la société civile, les mamans, ainsi de suite. On dirait qu'on n'a pas confiance à l'élite intellectuelle, à l'élite politique de la province, qui ensemble nous pouvons nous mettre d'accord pour voir comment sauver. Mais je considère que c'est un gouvernement qui suit les affaires courantes, puisque dans peu d'État, nous aurons les institutions élues.
Merci Théodore, vous êtes à Kananga. Toutes les préoccupations ramassées, nous allons revenir à notre invité. Je rappelle à nos auditeurs que nous avons en ligne M. Hubert Kabasubabu, gouverneur de province du Kasaï occidental.
Parole aux auditeurs. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiotapi.net.
Oui, Monsieur Hubert Kabasubabo, on a écouté les auditeurs habitant la ville de Kananga, Chikapa. On a vraiment beaucoup de problèmes, comme les tableaux éteints par les uns et les autres, vous-même vous l'avez dit. Mais il se pose une question, comme l'a dit Romain de Chikapa, c'est en termes des moyens de votre politique par rapport au temps que vous avez. S'il faut parler de route de défense agricole, ça demande des moyens. Mais au niveau de la province, comment comptez-vous mobiliser les moyens nécessaires qui peuvent vous permettre de pouvoir répondre à toutes ces priorités définies et par vous-même et par la population?
Bon, regardez, je pense qu'en termes de moyens, on a plusieurs volets. On a la rétrocession, mais on compte également sur l'autofinancement avec la brigade de mobilisation de la SAC que nous sommes en train de restructurer. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a une mission qui va à Chikapa pour essayer de guider là-bas un certain nombre d'opérations. Mais il faut dire que nous sommes un pays qui sort de plusieurs années de dictature kleptocratique et de la guerre, dans un pays dévasté. Et donc, Les cinq chantiers constituent un programme. Je voudrais vraiment en appeler à un intellectualisme cartésien, pas de complaisance. Et donc, il n'y a aucun pays au monde qui sort de 30 ans de dictature kleptocratique taxée par Samuel Huntington, gérant de la science politique américaine, qui taxe la dictature du monde comme étant une dictature sultanistique. Donc, c'est un sultanat, c'est pas une république, encore moins un État. Et donc, après ça, nous avons une série de guerres. On a mis en branle un programme et qui, du jour au lendemain, transforme ce pays-là en paradis. Ça n'existe pas. Je défie quiconque de me démontrer. Mais voilà, je voudrais dire que donc, il y a trois volets là de recettes. Donc, la rétrocession, les ressources propres, et il y a le volet investissement, qui d'ailleurs a permis de financer un certain nombre d'ouvrages et d'équipements. Mais je voudrais, si vous voulez, très rapidement, ramasser un certain nombre de préoccupations. Le dernier intervenant, je pense qu'il doit être modéré, il doit relativiser ses propos, il ne doit pas parler de manière absolue. Lorsqu'il dit l'eau, l'électricité, c'est de la routine, même enfin, ils ont passé toutes les années, si lui-même là, il veut l'eau de pluie. Et donc, c'est pas une routine. Lorsqu'il dit qu'il faut gagner la confiance, mais enfin, il faut être sérieux. Vous allez gagner la confiance des gens comment? C'est pas en prononçant des paroles comme ça, vous dites bon, ayez ma confiance. Il faut faire répondre à leurs besoins. Les besoins essentiels, c'est pas. Peut-être qu'ils croient que boire l'eau, c'est la routine. Non. Il y a des populations entières dans le monde qui n'ont pas accès à l'eau, encore moins à l'électricité. Et donc, c'est pas une évidence, quoi. Sinon, si c'était si facile, on aurait l'eau dans cette vie. Mais en tout cas, beaucoup de gens considèrent que l'eau, c'est la vie, et le fait qu'ils aient l'eau, c'est extrêmement important. Alors, il dit, bon, écoutez, il y a eu la médiocrité dans le gouvernement, dans l'Assemblée provinciale, il faut aussi relativiser. Parce que personne n'a interdit à ces messieurs et à d'autres intellectuels de la province d'entrer dans les partis politiques et de se battre politiquement pour pouvoir émerger dans les partis politiques et entrer dans la reine politique et être un élément d'excellence dans ces institutions. Et je pense qu'il y a en réalité, les problèmes d'éducation occidentale, on ne peut pas pointer une seule personne du doigt. C'est un problème sociétal. La problématique est collective. Parce que vous allez regarder même dans les églises, même dans la société civile, ils ont des bâtiments délabrés alors qu'ils reçoivent de l'argent des ONG, etc. Et donc, c'est une problématique d'une conscience provinciale, dans l'imaginaire de la province. C'est pourquoi nous avons parlé de la dynamique pour le renouveau du Kassai occidental. Et donc, c'est une problématique qui mérite d'être dépersonnalisée. C'est pas un problème de Mizungu ou de Kapu. Et Kapoukou, c'est une personne qui est venue animer une institution. Mizungu, c'est une personne qui est venue animer une institution. Mais ici, c'est une société, c'est une communauté qui doit faire sienne les cinq chantiers. Et j'ai rien d'autre aux cinq chantiers. Il y a quelqu'un qui a dit que je pense que c'est.
Dans les saisons, on
ne dit pas. Bon, je ne sais pas, les cinq chantiers n'existent pas. Non, mais encore là, je dis qu'il faut relativiser, il faut être cartésien, même en termes de logique formelle. Vous ne pouvez pas dire que les cinq chantiers n'existent pas lorsque les gens m'ont vu, moi, opérationnaliser le chantier santé en remettant du matériel de radiologie tympan neuf venant du Japon. Des matériels énormes dans des structures de soins de santé ici. Lorsque, en face de moi, d'ailleurs, je peux le voir, les Chinois sont en train de travailler déjà sur le boulevard Lumumba. Et donc, sur le plan intellectuel, sur le plan de la logique formelle, vous ne pouvez pas dire que ça, là, c'est rien. On ne peut pas dire qu'il n'y a rien lorsqu'il y a quelque chose. Donc il y a un problème sérieux de logique.
Voilà.
Et donc, en ce qui concerne l'agriculture, Romain, de ce qu'on a parlé de l'agriculture, je pense que l'agriculture, c'est également, c'est comme je dis, le renouveau du Kassai. Quelqu'un me disait en 77, la province du Kassai occidental était, ou la région du Kassai occidental, était l'une des grandes productrices de café. Et d'ailleurs, vous le voyez quand vous allez à Kazumba, quand vous allez à Liza, vous voyez dans chaque village, il y a des plantes de café. Et donc je dis qu'il faut qu'il y ait une action volontariste qui de la détermination, de la passion pour le développement. Nous, au niveau provincial, nous avons fait le forum agricole. Nous pensons que, au Kassai occidental, la première démarche pour générer la sécurité alimentaire, mais en plus de cela, économiquement parlant, générer des richesses nouvelles, consiste à actionner l'agriculture. Et donc, nous avons commencé avec l'achat de 300 hectares, donc l'acquisition de 300 hectares dans la ceinture verte de Kananga, et nous parlons de 300 hectares dans différents territoires, notamment à Luisa, qui est un pôle d'agriculture, et nous allons mettre les moyens à la disposition des habitants du territoire, avec les CARS, les conseils d'agriculture. Nous avons eu les tracteurs de la part du ministre Bassengezi, du gouvernement, donc, du chef de l'État. Nous avons ces tracteurs. Il y a même un autre lot qui est de la Kinshasa. Nous allons mécaniser, faire des zones de développement de l'agriculture, des projets pilotes. ici à Tikapa, à Mouéka. Et donc, à partir de ces projets pilotes, nous allons impulser l'agriculture de subsistance, mais également l'agriculture commerciale qui permet de créer une plus-value et de la valeur ajoutée. Nous allons donc impulser l'économie du cassoir tchinka. Mais il y a d'autres, également, pour les routes de desserte agricole. Il faut dire qu'il y a d'abord le chef de l'État sous en impulsion, le Stabila, pour les cinq chantiers. Nous avons les cinq chantiers qui ont commencé avec les Chinois qui sont là, qui travaillent. D'ailleurs, bientôt là, je vais aller leur parler, les encourager. Mais il y a aussi les partenaires internationaux, la BAD va asphalter, c'est pas une légende, c'est une réalité, la BAD va asphalter la route nationale donc à partir de Tikapa, Kananga, Mbujimayi, et nous-mêmes, le 18, nous avons présenté à la Banque mondiale un projet pour la route que nous appelons les pines dorsales du Cassé occidental, donc à partir de Mnyambouli, Luisa, Masuka, Nikalaï, Kananga, Demba, Mouka et Ilebo. Et donc, il n'est pas correct pour un compatriote qui a dit qu'il n'y a pas de route à Demba quand on a cultivé, on ne s'est pas venu à Kananga. C'est pas important. Il y a un problème de logique formelle. Hein.
Mais c'est bon.
Il y a l'office de route qui est fait. Moi-même, je suis allé là-bas. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de route. Évidemment, on sent crévassé, j'ai mobilisé l'office de route, DVDA, UNOPS, ETA, qui a d'ailleurs fait des très bonnes routes de dessert agricole à Masuka. On peut y faire même 80 km à l'heure. Et donc, il y a de l'espoir pour la province. On doit cesser de faire croire à la population congolaise que les cinq chantiers, c'est du ressort du mythe. Et c'est pas vrai, et c'est pas intellectuellement vrai.
Voilà. Avant d'écouter,
il y a des ressources sur le terrain.
Oui, monsieur, Hubert Kabassoba, avant d'écouter Donan, qui est à Kananga, et Jean-Marie, qui est aussi à Kananga, un peu rapidement, il y avait la préoccupation de Mathieu de Kananga par rapport à ses bicéphalismes au niveau de l'Assemblée provinciale. Il vous a posé la question individuellement pour savoir si vous avez déjà fait un pas envers l'Assemblée provinciale pour les aider à être en harmonie, parce que cela va aussi du fonctionnement de votre gouvernement provincial et l'harmonie au niveau de l'Assemblée provinciale.
Non, moi je pense que la Constitution consacre la séparation des institutions, et écoutez, politiquement, sociopolitiquement, nous pouvons, de manière informelle, essayer. Bon, j'ai vu quand même, je dois saluer la démarche d'un certain nombre de députés qui sont venus me voir, me contacter, justement pour rechercher cette possibilité d'interaction qui pourrait être féconde et permettre à ce qu'il y ait d'entendre. Parce que la population elle-même doit s'insurger, et je salue les frères et sœurs de la société civile qui s'insurgent contre l'instabilité infertile, inutile, inféconde dans l'Assemblée provinciale, qui n'a donné rien parce qu'elle déstabilise la province. Et donc, moi, je vais exhorter mes frères de l'Assemblée provinciale qui m'écoutent, alors à leur retour, on a très peu de temps, et qu'on ne rentre pas, je leur avais dit lors de mon discours d'investiture, qu'ils devaient non pas enterrer la hache des guerres, mais qu'ils devaient la brûler complètement. Pour que on ne rentre plus à la déstabilisation féconde.
Voilà,
qui en train de essayer de présenter vers les bas, en train de la province en instabilité.
Et donc,
ils ont des matières formelles, nous les faisons, ils sont venus nous voir, nous attendons qu'ils rentrent de leurs vacances parlementaires, nous aurons la session budgétaire, et nous allons continuer de manière informelle à les faire. Mais on appelle également à la société civile, à l'Église catholique, qui est très, très importante dans la province. Les autorités ecclésiastiques doivent s'adresser à ces députés provinciaux. La société civile doit s'adresser à ces députés provinciaux. L'ancien scouturier doit s'adresser à des députés provinciaux. Et donc, il faut qu'il y ait une action de la société dans sa totalité, parce que je dis que c'est une crise sociétale. Donc, la société ne doit pas regarder l'institution Assemblée provinciale comme un temps qu'une structure indépendante, une sorte de. Et les autres députés opèrent comme les ponts libres. C'est un problème de la société, puisque la société souffre et victime innocente de cette déstabilisation.
Ok, voilà. Monsieur le gouverneur, une dernière question, peut-être que vous allez répondre dans une minute, le temps d'écouter d'autres auditeurs. Vous avez évoqué beaucoup de projets par rapport aux routes, que ce soit les ponts Mnyambouli, il y a un auditeur même qui a écrit par rapport à ça, et d'autres projets, parce qu'on sait dans les discours du chef de l'État, plusieurs fois, le 6 décembre, il est revenu sur l'ensemble de ces projets, Kananga Tikapa, Kananga Mbujimayi, Tikapa Mbujimayi, en passant par Kananga. Le problème de la chute Katende, on en a parlé plusieurs fois, mais quels sont les signes qui peuvent donner de l'apaisement à la population pour savoir que tous ces projets qui ont figuré depuis 3 à 4 ans qu'on en parlait, que cette fois-ci, quand même, ils peuvent le palper et les vivre.
Mais je pense que notre population, je pense qu'elle n'a pas d'informations, pas seulement la population, mais il y a également des intellectuels dans la société qui n'ont pas l'information. Je pense que nous allons fournir un effort pour leur donner des informations, parce que, comme disait un gouverneur de la région du Moyen-Sahara au Tchad, il est facile de gouverner un peuple formé et informé. Et donc, il faut donner de l'information. Donc, par rapport à ça, j'ai reçu dans mon bureau un frère sénégalais qui est expert de la BAD et qui est venu confirmer que les travaux vont commencer peut-être d'ici avant la fin de l'année pour asphalter la route.
Voilà.
Bon, le gouvernement lui-même avec les compagnies, les crédits, ils sont en train de travailler, c'est pas grave, on le voit. Déjà, d'ailleurs, il y a des attroupements déjà là-bas. Je pense que ça fait des décennies depuis qu'ils ont vu des engins de cette dimension en train de travailler. Un peu comme à Kinshasa. Et donc, le ministre des Affaires agricoles, nous avons encore reçu la BAD ici qui est venu nous aider et qui a un programme de PADIR. Et donc, ils vont faire les routes secondaires partout là-bas, à Dibaya, à Benaleka. La BAD va faire encore 200 km de route de l'essai agricole à Chikapa. Les projets Mounamboulou et la route qui se met maintenant les Pines de Salle, donc Mounamboulou, Luisa, Kananga, Demba, Mweka, Ilebo. Les 18, nous faisons une présentation à la Banque mondiale. Nous espérons qu'elle pourra éventuellement accepter de nous aider. Si pas une route asphaltée, mais peut-être une route entière battue, parce que comme je dis, j'ai vu une route qui est faite par Pessard et une ops au niveau des Masuika à Luisa, c'est formidable, on peut y faire de 80 à l'heure.
Voilà,
et donc,
on va revenir.
Et donc, il y a là des signes palpables, bien au contraire, les gens. Moi, je pense que la société doit, c'est elle-même, se remettre en question. Parce que quelque part, j'ai vu aujourd'hui les Chinois en train d'arranger les caniveaux au niveau des Canana 2. Mais c'est comme s'ils venaient de construire ces caniveaux-là alors que les caniveaux existent. Nous-mêmes, nous venons jeter les déchets là-dedans. Nous-mêmes, nous jetons des histoires là-dedans et nous ne prenons pas soin, même devant notre propre parcelle.
Voilà.
Et donc, c'est un problème de société. Il ne faut pas personnaliser, il ne faut pas épingler simplement une institution. Il faut soi-même se remettre en question.
Voilà. Monsieur le gouverneur, on vous garde parce qu'on ne pourra pas vider tout maintenant. On a encore quelques minutes pour cheminer avec les auditeurs et puis vous écouter encore. Donna et Takananga, Jean-Marie et Takananga, je pense bien qu'ils ont gardé la ligne tout le temps que notre invité est en train de répondre au premier groupe d'auditeurs.
Émission spéciale Parole aux auditeurs consacrée à la province du Kasaï occidental.
Quel bilan faites-vous à ces jours du fonctionnement de vos institutions provinciales?
Auditeurs habitant la province du Kasaï occidental, prenez rendez-vous avec toute l'équipe PA le mercredi 15 juin de 10h à 11h15. Inscrivez-vous à l'adresse pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, c'est vous qui faites l'action.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Et Parole aux auditeurs spécial Kasaï occidental a invité pour vous M. Hubert Kabasubabo, gouverneur de province. Bon non, vous êtes encore en ligne, je crois bien. Bonjour.
Bonjour Pierrot, comment ça va?
On va bien, toute l'équipe se porte bien. Nous cheminons vers, je ne peux pas dire la dernière partie, l'avant-dernière partie de l'émission, et nous formulons plus de priorités qu'il faudrait pour les nouvelles autorités du Kasaï occidental. On vous écoute, Donna.
Oui, parmi les priorités, parce que tout a été déjà dit avec notre nécessaire, j'ai dit que parmi les priorités, il faudra que les courants puissent se matérialiser au lieu qu'on puisse avoir les courants de 3 heures qu'on a. Mais sur le plan économique, ça ne peut pas se faire sentir parce que nous voulons un courant qui booste un peu l'économie du Kasaï occidental. À la lumière de ce que le gouvernement vient de dire, si on mettait en marche le KCMDD, je pense que l'économie du Kasaï occidental va pousser, puis les conditions des gens vont changer. Et parmi les priorités encore, je voulais que les gouverneurs puissent nous aider un peu. Nous, nous sommes dans le secteur des télécommunications. Et ce que nous sommes en train de vivre par rapport à la tracasserie administrative, au niveau des taxes, il faudra que les gouverneurs puissent nous aider, afin que nous puissions étendre nos réseaux partout, pour que la communication puisse être sentie partout au Kasaï occidental. Voilà un peu les priorités que je voulais ajouter parmi tant d'autres que les amis ont avancé.
Merci, vous avez épinglé le problème de tracasserie administrative, beaucoup de taxes, si le gouverneur peut vous aider, afin de vous permettre d'étendre les réseaux de télécommunications à travers toute la province. Jean-Marie, vous êtes à Kananga, bonjour. Jean-Marie, vous êtes en ligne, bonjour.
C'est Jean-Marie ou Oumba?
Qui est en ligne, c'est Jean-Marie, je crois bien.
Oui, c'est Jean-Marie.
Oui, il y a un peu beaucoup de bruit tout autour de vous, on vous écoute.
Bon, merci beaucoup, Monsieur Pierrot. D'abord, c'est que je vais parler sur deux plans. Il y a le plan social et le deuxième plan, ça sera le plan sur le plan économique. Sur le plan social, on remarque que dans un premier temps, le premier gouvernement provincial qui avait été là avait presque délocalisé les intérêts de la population canadienne pour autre cieux. Il y en a qui se sont tapés des grands bâtiments ailleurs et qu'on sort tout ça. Mais là, nous incombons vraiment la faute à notre assemblée provinciale, comme venait de le dire M. Théo, qui s'était pas complice de la gabegie financière dans notre province, qui a constitué, qui est vraiment constitué en grande partie des acclameurs. Cette assemblée est le premier à réclamer des salaires et pourtant, chacun des députés va à ses occupations. Il y en a qui sont dans le carburant et il y en a d'autres qui sont dans les diamants et ne s'occupent jamais à plaider pour la cause de la population qui les a choisis, qui les a élus. Et cette population qui est malheureusement en train de vivre dans la précarité la plus totale. Et là où le bas blesse, ces gens-là ne veulent même pas, les députés ne veulent jamais payer les impôts. Bon, j'aborde le deuxième volet de ma question, de ma préoccupation. Il y a un laisser aller dans le cadre de la vie économique de notre population. Vous voyez, un opérateur économique qui se lève le matin, qui met le prix comme il veut, même pour les matières qui sont réglementées par le gouvernement central. Ce que nous sommes en train de déplorer dans notre province, c'est quoi? Même quand on fait des petits parcours dans le bus, les transporteurs prétextaient que voilà, puisqu'il y avait l'augmentation du prix de carburant. Mais quand le prix des carburants a baissé, Pierrot, vraiment, nous sommes...
voilà. Pour résumer, Jean-Marie, pour permettre aux autres personnes d'intervenir, vous avez parlé de l'Assemblée provinciale qui est tout le monde a presque fustigé. Mais vous êtes revenu sur le plan économique, vous dites qu'il y a un laisser-aller, chacun fixe le prix, les transports en commun, chacun fixe le prix comme il le veut et l'entend. Nous allons donner aussi la parole rapidement à Maître Adrien qui est sur place à Kananga. Maître, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour mon cher ami Pierrot.
On vous écoute parce que nous avons là bientôt les bulletins d'information des Radio Capi. Vous n'avez que 2 minutes pour votre intervention. On vous écoute, Maître Adrien.
C'est un peu dommage pour le temps, mais j'aimerais faire revenir par rapport à votre question. Vraiment, je ne vois pas pourquoi il faut donner ce bilan, parce que le bilan est largement négatif. Les institutions se sont tamisées au lieu de travailler. Et donc, elles se sont mises à se disputer sur des histoires un peu inutiles. Aujourd'hui, M. Pierrot, moi, j'ai toujours eu l'avantage de connaître la situation politique, économique et sociale de notre province parce que je suis un peu mobile. Lorsque j'étais à Ilebo, je vous assure que les gens se posent des questions si ce territoire-là avait aussi contribué à l'élection ou à la mise en place des institutions qui nous gèrent aujourd'hui. Parce que lorsque vous prenez d'abord l'institution du gouvernement provincial, mais c'est une institution qui s'est caractérisée par des voyages inutiles. Et au lieu que cette institution soit interpellée par l'Assemblée provinciale, malheureusement l'Assemblée provinciale était constituée de fanatiques, de gens qui pouvaient acclamer en désordre, au lieu d'interpeller de travail. C'est pour cela cet échec-là, je ne voudrais pas que l'Assemblée puisse le mettre sur le dos de cette institution au gouvernement, parce que tout le monde assume cet échec. Et aujourd'hui, je vous assure, et je n'ai pas peur d'être contredit par qui que ce soit, la province du Kasaï occidental se trouve dans une situation de non-état, parce que personne ne s'intéresse aux soucis de la population.
Oui, et rapidement, parce qu'on a aussi Franck qui est à Kananga. Maître Adrien, nous vous donnons juste 30 secondes parce que vous avez déjà critiqué ce qui est arrivé, mais regardons quand même à l'avenir. Hein. Qu'est-ce que vous pensez qui puisse être fait rapidement pour redresser la province?
En tout cas, nous avons donné des propositions dans ce sens-là, ça marche, je pense, avec l'actuel gouvernement. Il vient aussi malheureusement de s'impliquer dans tout ce que le premier gouvernement, dont ses prédécesseurs, avait commencé avec de longs discours, des conférences inutiles à Ilebo là-bas. Ils viennent pour parler à la population est affamée. Le seul chantier, donc le fameux seul chantier, c'est vraiment zéro de ce côté-là. Je ne vois pas ce que moi je peux proposer, parce qu'on a longuement proposé, rien n'est fait.
Voilà, pour Adrien, on a longuement proposé, rien n'est fait. Franck, vous avez aussi 2 minutes et demie, je crois bien. Bonjour, Franck.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Et vous pensez vraiment qu'on ne peut pas proposer parce que rien n'a été fait? Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qu'il faudrait quand même proposer pour que le quartier financier se redresse?
En tout cas, merci Pierrot. C'est comme l'ont dit mes prédécesseurs, le bilan était vraiment largement négatif. Mais néanmoins, nous ne pouvons pas croiser les bras. Nous devons soutenir les gouvernements actuels. Je crois que les propositions à faire sont nombreuses. Le problème qui est là, on avait demandé au nouveau gouverneur de voir d'abord des priorités. Les priorités qui étaient vraiment faciles à exécuter, c'est d'abord donner de l'eau et l'électricité. Ce qu'il est en train de faire là, on dit coup de chapeau. Voilà, au moins, pour cette fois-ci, nous disons ceci. Nous demandons surtout au gouverneur d'être à l'écoute, de la population. Parce que les gens que la population avait mandaté pour parler à leur nom, ne parle pas à leur nom. Je m'attaque directement aux députés qui n'ont pas facilité même la tâche à l'ancien gouvernement de bien travailler. Nous avons vu les députés qui cherchaient des troubles, qui aient des troubles au sein de l'Assemblée, et cela leur profitait au détriment de la population. Ils ont mis l'ancien gouverneur en confusion avec certaines populations ou certains groupes de députés.
Merci, Franck.
Nous demandons... Ouais,
merci beaucoup Franck, parce qu'on tend vers la fin de cette première partie de l'émission. Je rappelle à nos auditeurs qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent de Kananga, c'est parce que Radio Kapi n'est capté qu'à Kananga, je crois bien, dans la ville de Chikapa, mais beaucoup de territoires, hein, si j'ai parlé de 10 territoires, de districts, de villes, mais malheureusement, s'il n'y a pas d'autres personnes qui interviennent comme à Dimbélégné, comme à Luisa à Kazumba, c'est parce que Radio Kapi n'est pas capté là-bas, ils auront peut-être, ils ont difficile à suivre ce qui se passe dans cette émission, c'est pourquoi vous avez beaucoup d'auditeurs qui interviennent de la ville de Kananga. Nous revenons dans Parole aux auditeurs spéciales consacrées à la province du Kasai Occidental dans sa dernière partie et la partie des conclusions. Bien sûr, on pourra écouter aussi des auditeurs, mais le temps que le gouverneur Hubert Sabasubabo puisse réagir à ces quelques auditeurs qui sont passés sur les antennes. Monsieur le gouverneur, vous êtes avec nous, je crois.
Oui,
vous. Oui, nous avons suivi un auditeur, c'est Donat, qui a évoqué la multiplicité des taxes, hein, qui ne permet pas à eux qui travaillent dans la téléphonie cellulaire de pouvoir étendre les réseaux à travers toute la province. Mais je m'en veux aussi profiter de cela pour poser la question. Vous avez évoqué tout ce projet demande les moyens. Alors, il se pose un problème des canalisations de recettes de l'État. On sait que ce problème se pose sérieusement pour savoir l'argent payé va où, va dans quelle caisse pour que cet argent puisse aider la province. Comment vous allez vous y prendre avec tout ce qu'on connaît comme méthode, comme pratique dans la gestion de recettes de l'État pour que le recette puisse être canalisée et puisse servir à votre politique?
Je pense que c'est un problème d'information. Là, les déficits en ce de gouvernance, c'est tout le manque d'informations. Le peuple n'est pas, les citoyens ne sont pas suffisamment informés, même au niveau national. Ce qui fait des discours porteurs de beaucoup de déficits et de contre-vérité. Mais en ce qui concerne le Kasai Occidental, il y a, nous avons des comptes à la Banque Centrale, nous avons des comptes dans certaines banques commerciales. Et la retrocession vient par le biais de la Banque Centrale, c'est clair, il n'y a pas de but possible. Il y a une procédure pour activer ces comptes-là. Et pour la BMR, dans la brigade de mobilisation des recettes, en ce qui concerne les ressources, disons, provinciales, la BMR a des comptes dans les banques de la place, et il faut bien contrôler. Chaque jour, on reçoit, disons, les extraits de ces comptes, on voit les mouvements et qui sont effectués. Mais on déplore, par contre, le manque d'efficacité, la sous-performance de la BMR, et donc nous sommes appelés à réorganiser, avec d'ailleurs l'appui de la Banque mondiale, dans son programme PCRG, sur la gouvernance. Ils vont nous aider à restructurer, ils vont avoir un consultant qui va permettre de recruter des personnes compétentes, et comme je vous ai dit au début de l'émission, il y a même une mission qui est partie à Chikapa, parce que la gestion là-bas est brumeuse, et donc à l'issue de l'audit qui va être réalisé là-bas, on va faire une mise en place à Kamonia, à Inebo, à Luisa, à Luebo, partout là-bas. Donc, ça, aujourd'hui exactement, ça fait un mois depuis qu'on est là. D'ailleurs, on remercie toute la population du Kasai Occidental, les papas, les mamans, les députés, tous les camarades qui ont aidé, les pasteurs qui ont prié. On remercie le chef de l'État, on remercie tous les leaders. Et donc, en termes de gouvernance, je pense qu'on tend vers une nouvelle dispensation grâce à la Banque mondiale. D'ailleurs, nous avons reçu la visite de l'expert du PCRG, qui nous a aidé à mettre sous pied une commission budgétaire, une commission budgétaire, qui travaille déjà sur les budgets, Et même la gestion financière du gouvernement ici, nous avons même commencé à utiliser, nous avons acheté un logiciel qui va nous permettre de faire une meilleure gestion, qui va nous permettre de voir combien nous dépensons pour les charges fixes, les charges variables, les acquisitions, etc. Donc, nous cheminons petit à petit vers une nouvelle dispensation. Mmh. Et donc, ce que je peux dire, c'est que tout le monde doit participer. Les gens doivent payer la facture de l'eau. Ils ne peuvent pas boire l'eau gratuitement. Il n'existe aucun pays au monde où on boit l'eau gratuitement. Il faut traiter, en fait.
Voilà. Oui,
les gens doivent payer. Même s'ils payent un peu, mais ils doivent payer pour que nous puissions venir en appui. Et la SNL peut aussi nous faire des dotations d'appoint. Et comme ça, la fournité d'eau électrique, ça peut être permanent.
Ok, voilà. Monsieur le gouverneur, gardez la ligne. On écoute les deux derniers auditeurs. On revient à vous pour conclure cette émission. Augustin, vous êtes à Kananga. Bonjour, Augustin.
Bonjour, Radio Papu.
On termine l'émission. Vous avez deux minutes pour, eu égard à tout ce qui a été dit par les compatriotes qui habitent la ville de Kananga, ceux d'Escapa qui sont intervenus, par rapport aux priorités, un peu rapidement, parce qu'on termine déjà l'émission. On vous écoute, Augustin.
Oui, comme je ne saurais pas, faute de temps, je ne saurais pas revenir sur le bilan qui du reste est largement négatif. Mais je dis, le gouverneur, son excellence, qui est aussi en ligne avec nous, il est placé devant une grande contrainte, c'est le temps. Il a des bonnes ambitions pour relever les déficits qui lui a été légué par son prédécesseur, mais il est placé devant une contrainte qui est le temps. Mm-hmm. Je prends pour exemple le projet de l'infrastructure au niveau de la voirie urbaine. Comment pourra-t-il, dans quelques mois qui restent, réussir à réceptionner les infrastructures urbaines de la ville? Et aussi le projet qui s'appelle, par exemple. Ça, c'est un projet à long terme. Comment, pour quelques mois qui restent, le gouverneur pourra-t-il réussir à électrifier la province de Kasaï Occidentale à partir de la Kinshasa? Moi, je pense que le gouverneur pouvait voir au niveau de ces chiffres qui a été fait au niveau de la rivière Loua. Bien sûr que c'était un pont blanc. Ben, le gouverneur peut mettre un peu d'inclusion parce qu'il en a les moyens. Nous avons vu que depuis qu'il est aux commandes de la province, il est en train de faire des actions positives.
Merci Augustin. Merci beaucoup Augustin. On l'a compris, vous avez posé le problème de la contrainte de temps. Mais la gestion de l'État, c'est aussi la continuité des institutions. On écoute Edouard pour terminer cette émission à Kananga. Edouard, bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Mmh, merci beaucoup.
Vraiment, je ne saurais pas aller aussi à l'encontre des avis de mes professeurs. Je dis que l'État est largement négatif. Ça, c'est la dualité institutionnelle qui battait son plein ici. Mmh. Le territoire statin est tellement moulé, formé dans le sens de prendre pour modèle le lien de parenté. Bon, aujourd'hui, je suis chef. Je dois prendre comme conseiller les membres de ma tribu, même s'ils sont incompétents. Niveau. Alors que cette province, je vous dis, M. Pierrot, égorge tant d'intellectuels capables de transformer cette province. En plus, c'était le temps de l'intérêt particulier qui tenait sur l'intérêt général.
Maintenant,
on ne peut jamais construire cette province sous l'angle légal.
Alors,
nous osons croire que, avec les changements de direction, les aspirations de la population ouest-africaine ne trouveront où se reposer malgré le temps qui est imparti.
Voilà.
C'est ainsi que nous demandons à nos autorités actuel de se mettre au travail en évitant le tribalisme, l'intolérance, qui travaille pour la satisfaction de l'intérêt général, car les Kasaïens ont besoin du courant, de l'eau, d'accès à la santé, la bonne formation,
l'aménagement
des infrastructures et le respect de la loi qui n'est pas surtout de l'île d'ici.
Merci, merci beaucoup, Edouard. On revient à vous, M. Hubert Kabasubabo. Vous avez trois minutes pour conclure cette émission. Au nom de tout ce que les auditeurs ont dit, bien sûr, les gens regrettent que la situation générale puisse être le discours. Bon, peut-être on a perdu notre invité, je crois bien. La réalisation va tenter de les recontacter pour pouvoir lui donner la parole et conclure cette émission. Je rappelle d'ailleurs, je donne rendez-vous aux auditeurs du Nord Kivu que le mercredi prochain, ça sera le rendez-vous avec la province du Nord Kivu.
Parole aux auditeurs. Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Voilà, nous avons recontacté notre invité, M. Hubert Kabasubabo, vous êtes en ligne?
Oui, oui.
Et vous avez, comme je le disais, 3 minutes, hein, pas plus, hein, pour conclure cette émission par rapport à tout ce qui a été dit. Vous êtes à la tête de la province du Kassai Occidental. On a écouté les uns et les autres, les erreurs du passé et l'avenir, ce que les gens peuvent espérer. Dans 3 minutes, en tout cas, pour conclure l'émission spéciale Parole aux éditeurs.
Merci beaucoup. Je pense qu'il y a de l'espoir pour la province. Je peux seulement dire, ban Betimons, ban Kassai Occidental. Toujours Kaï, si vous ne savez pas, ban Kassai Occidental, province, oui. Tu vois, tu as la tout. Les gens en amène, ou à tout le monde, ou à tout le monde, bilen, et ban Tibons, biman, bajouk. Bilen, bions, bilen, bions, bion Kassai Occidental, ban man, bons, batil, bat à tout bons, mantan, bajouk, tu bat à tout le monde. Donc, il y a de l'espoir pour les Kassai Occidental, les cinq chantiers. Avec les chefs de l'État et les institutions centrales sont réels. On a les Chinois qui travaillent déjà. Nous-mêmes, on a eu l'équipement, la dotation présidentielle pour les hôpitaux. Nous avons fait ça à Kazumba, à Liza et maintenant à les faire partout. Et l'espoir, les routes vont être construites. Donc, les chantiers qui vont commencer sur la route numéro 1, la nationale numéro 1, sur RN 41. Donc, il est beau, Demba, il est beau, Mweka, Demba, Tananga, etc. Donc, il y a beaucoup d'espoir. Nous allons nous focaliser sur la nécessité de maintenir l'eau et l'électricité à niveau, mais d'étendre l'eau également avec des puits dans d'autres comtés. Et l'usine de la régie des eaux, par exemple, à Tsumbulu, essayer de réactiver. Et nous allons nous concentrer également sur l'agriculture, c'est fondamental. Vous ne pouvez pas maîtriser la nanotechnologie et d'autres technologies si vous n'avez pas maîtrisé la terre. Donc, avec des projets pilotes, nous allons continuer dans ce sens-là. En ce qui concerne l'industrie, nous aurons un premier parc industriel, mais avec sous catégorie, nous pensons que les gens qui doivent exploiter le nickel, le zinconco, doivent exploiter l'or, ils vont venir et il y aura une véritable cohésion, si vous voulez, économique de la province. Surtout avec le pont Mouniamboulou, lorsque le chef d'État va concrétiser cela. Je pense que l'éclosion économique et sociale du Kassai Occidental va se réaliser. Et on est sur cette piste-là. Je demande simplement à nos frères et sœurs d'avoir, ce qu'on appelle en anglais, un nouveau mindset, une nouvelle mentalité sur la province, d'être optimiste, d'avoir la foi, mais également de la raison. Et donc, qu'on ne soit pas pessimiste, qu'on dise, oh, et qu'on court alors qu'on n'est pas fin, il faut arrêter ce discours-là, de malédiction sur la province. Il faut prononcer la bénédiction de la province, comme dirait Barack Obama. Yes, we can.
Voilà. Nous vous disons merci, monsieur Hubert Kabassoubabou, d'avoir accepté la parole aux auditeurs 1h15 et aussi merci à tous les auditeurs de la province du Kassai Occidental qui sont intervenus et tous ceux-là qui nous ont suivis à travers le monde. Dans l'ensemble, nous vous disons tous merci.
Allô? 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 Oui. Il ne répond pas?
Voilà, le mercredi prochain, ça sera, je vois, le mercredi prochain, ça sera le 22 juin. Nous allons nous déplacer pour la province du Nord Kivu qui sera au rendez-vous avec l'émission spéciale consacrée à la gestion de cette province. Soyez nombreux déjà à vous préparer pour ce grand rendez-vous du 22 juin prochain. Et demain, jeudi, on va se retrouver encore à 11h, heure de Kinshasa, 12h au centre à l'est du pays pour l'émission ordinaire. Cette fois-ci, nous allons évoquer la situation de l'enfant, parce que vous savez, demain c'est le 16 juin, la journée de l'enfant africain. Nous allons jeter un coup d'œil à la situation des enfants en rupture avec la famille, ce qui est appelé communément les enfants de la rue. Une seule question pour l'émission de demain, comment mettre fin efficacement au phénomène enfants de la rue en RDC? Soyez nombreux à vous inscrire à l'adresse ph@radiocopie.net. Merci à toute l'équipe pour la production de cette émission. Marie Chantal Lumba, Tikun Koutou, Sylvain Matondo, supervisé par Nicole Ngaka. Et merci à vous tous, pour le moment, le programme de Radio Capi continue.